te parle de tout ce qui fait un homme, non pas nos gènes, non pas ce qu'on te laisse voir, mais tout ce qu'on te cache quand ça nous gêne, auquel on pense toute la noche, jambes allongées devant nos chaînes. Cette impression de perdre son temps, s'étouffer dans cette vie toute faite, se sentant faible en sachant que la vie est une fête où personne danse. Ma deuxième mère m'a dit, c'est pas pour leur argent que les meilleurs prient. Je pleure celui qui meurt jeune, mais encore plus celui qui meurt triste. M'intériorise et je meurs.
Salut les gars,
salut.
Vous allez bien?
Salut Romain.
Ça va Daniel?
Ça va et toi?
Très bien. Écoutez les gars, aujourd'hui on parle d'un sujet qui me touche moins mais qui vous touche beaucoup plus, mais dans lequel je vais quand même beaucoup interagir. On va parler de l'importance de la lecture. Alors, est-ce qu'on parlera que des livres ou peut-être aussi l'importance de lire, comme on en avait brièvement parlé dans l'un des derniers podcasts, même de l'actualité et autres, d'aller en profondeur dans certaines choses, d'où l'importance voilà, de travailler correctement ces sujets et de ne pas survoler. Bon, toi Manuel, c'est un sujet qui te touche depuis des années, t'as pas démarré la lecture avant-hier en te disant on va faire un podcast dessus quoi.
Non.
Voilà.
Non, non. Non, la lecture, c'est un sujet important. Ouais. Mais je pense que c'est un sujet important pour beaucoup de gens, même pour ceux qui ne lisent pas.
Bonjour.
Et
c'est ma place dans ce podcast. Voilà. Donc en fait, le but, c'est que ces deux messieurs me donnent envie, dans ce podcast, de clairement m'allouer un réel temps pour lire.
C'est important, surtout pour les gens qui ne lisent pas en réalité.
Bien sûr.
Parce que les gens qui lisent n'ont pas besoin d'être aidés. Il y a un dicton, alors j'aurais dû regarder, je ne sais plus de qui c'est, qui dit que les gens qui ne lisent pas ne sont pas supérieurs aux gens qui ne savent pas lire. Ça te fait mal, Romain?
Attendez, j'essaie déjà d'analyser la phrase.
Il est en train de processer.
Là, je processe, ça y est, c'est monté.
Okay.
Ouais, ça fait mal, mais d'un autre côté, je comprends parce que le peu que j'ai lu m'a apporté tellement plus que le peu que j'ai vu. Dans les films, dans la vidéo, même dans la radio. Parce que je pense que c'est quelque chose qui se consomme tellement différemment et qui s'aborde tellement différemment. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. Parce que je pense que c'est pas aussi... c'est très puissant ce que je veux dire, pas aussi facile que la vidéo.
Oui, c'est moins abordable.
Bravo Romain.
En effet.
Bravo.
En effet, en effet.
Vous avez démarré comment et pourquoi?
Moi, j'ai démarré parce que je regardais beaucoup sur YouTube de développement personnel. Je pense qu'on a tous un petit peu regardé des vidéos comme ça qui nous ont un peu aidé. Et en fait,
attends Léo, tu m'inquiètes. Normalement, on démarre la lecture vers 5-6 ans.
Ah oui, non mais oui, d'accord. Bon, ok, j'ai lu Harry Potter, etc. Moi, pardon, je parle de la lecture que je pratique aujourd'hui, c'est-à-dire de la non-fiction. Avant, je lisais un peu de romans, etc. Et puis, j'ai pas accroché très longtemps à ce genre de lecture. Et j'ai redécouvert la lecture quand effectivement, j'ai vu des mecs qui étaient inspirants et qui parlaient de tel livre, etc. Donc, je me suis mis à lire en me disant, bah, peut-être que ça peut m'aider. Et en fait, depuis, c'est pas que j'adore lire, mais j'adore avoir lu. J'adore ce sentiment d'avoir appris des choses.
Wow.
J'adore ce sentiment d'avoir lu une vingtaine de pages dans mon après-midi, d'avoir appris plein de trucs et d'être vachement inspiré, d'avoir envie de travailler sur moi-même, de mieux comprendre le monde qui m'entoure, etc. Moi, c'est ça vraiment qui m'intéresse.
Mais du coup, toi, tu lis pas pour te divertir?
Pas du tout. Non, non.
D'accord. Tu lis pour apprendre et emmagasiner plein d'informations que tu n'as pas ailleurs.
Ouais, mais je pense que c'est une notion très importante, le fait que j'explique que moi j'aime pas forcément lire. J'aime ce que la lecture m'apporte, mais c'est rare que je me dise un dimanche après, oh, je vais me faire un petit bouquin là, ça va être pump it up.
D'accord.
La plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils considèrent qu'ils n'aiment pas lire, donc ils vont pas lire. Mais c'est pas une question d'aimer lire ou non, c'est que vraiment ça vous apporte quelque chose, c'est une valeur inestimable la lecture.
Toi Manuel, tu lis aussi des choses parfois, mais juste pour t'évader, de la fiction ou autre, ou t'es comme Léo, plutôt dans un cadre... pour apprendre des choses que tu trouverais pas ailleurs ou des avis ou des points de vue différents dépendant des auteurs?
Alors moi j'ai bouffé beaucoup de littérature classique petit.
Très
en fait.
Petit.
Donc aujourd'hui moi je lis plus de trucs en rapport avec ou des gens que j'aime ou des trajectoires humaines ou enfin c'est pas très loin du business en fait. Je suis pas un grand lecteur de trucs pour m'évader, de romans,
Mais au début, t'as eu la chance quand même d'être accompagné, parce que je sais que, dépendant des enfants, moi, j'ai pas eu la chance d'être accompagné. On n'a pas tant poussé la lecture que ça. Je lisais un Max et Lily pour faire plaisir, et puis quand on me donnait un Tintin, j'avais la console Nintendo DS au milieu. Ça fait de la peine, mais c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que quand j'ai compris l'importance de lire, c'était trop tard. Mon cerveau était pas entraîné pour. Donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de m'y mettre.
D'ailleurs, t'as appris à lire l'année dernière, si je me trompe pas.
À peu près, c'est vrai.
Oui.
Réellement, c'est vrai, grâce à la Kindle, qui aujourd'hui me permet...
Au Kindle.
Ah oui, d'accord.
Ce qu'on peut dire aux gens déjà, c'est qu'il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que se mettre à la lecture, il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un truc un peu un télo-bobo autour de la lecture, où il faut absolument que ça soit très compliqué, un peu torturé.
Limite, il n'y a que toi qui le comprends et t'es content que les autres ne sachent pas de quoi tu parles.
Il n'existe pas que les livres de Nietzsche. C'est ça que tu es en train de nous dire.
Je suis en train de dire ça. Il n'existe pas que la sélection de Télérama. Il n'existe pas que... tu vois, à un moment, tu peux lire des trucs juste qui te font kiffer. Moi, je pense que ce qui est difficile aujourd'hui, si on amène aussi peu de gamins à la lecture, c'est parce qu'on a une approche élitiste de la lecture. On a une approche qui est très discriminante par rapport à la lecture. Moi, je préfère emmener des enfants qui lisent pas, même à travers des BD, ou essayer de trouver des trucs qui sont en rapport avec leur goût, sur des ados. Il y a encore pas très longtemps, des ados qui aiment, tu vas chercher dans leur passion, ils aimaient le skate, je leur ai trouvé des bios de skateurs, etc., etc. Hop, ils se sont mis à lire, et bizarrement, leurs parents me disent, ah bah tiens, il lisait jamais rien, et le bouquin que tu lui as offert, il l'a lu en une semaine.
Donc tu juges pas la lecture aujourd'hui que beaucoup peuvent juger, soit des influenceurs ou des créateurs qui racontent des choses qui n'ont pas beaucoup de fond pour beaucoup, mais qui peuvent aider, pourquoi pas une jeune génération qui n'a pas l'habitude de lire à s'y mettre grâce à des gens qui suivent sur internet par exemple. Toi, t'es pas du tout dans ce jugement là. Pour toi, peu importe d'où on part, c'est toujours plus intéressant de lire plutôt que de ne pas lire, peu importe ce que tu lis, quoi.
C'est forcément du savoir. Après, tu vas chercher le savoir que tu veux aller chercher. En fait, c'est toi qui fais le choix de lire ce que tu veux lire. Mais il y a toujours des connaissances qui sont apportées. Il y a toujours de la culture. Il y a toujours, enfin, c'est très riche un livre quel qu'il soit.
Pour parler un petit peu de mon expérience rapidement, là où, enfin, pourquoi j'ai démarré à ma juste valeur, vous savez que je monte en pourcentage petit à petit sur plein de livres différents, je suis très lent à déclencher parce que je n'arrive pas, et on va en parler, à prendre un réel moment pour lire comme si c'était autant important que le reste, alors que c'est réellement le cas, et que je pourrais, à la place de faire des emails ou de créer une vidéo, lire. C'est autant intéressant et impactant dans ma vie, c'est juste que vu que j'arrive pas à le matérialiser, j'y accorde pas encore autant d'importance.
Bah, c'est même plus important parce que... Quand tu crées des vidéos ou autre, certes tu te fais plaisir, mais tu adresses les autres aussi.
Ouais.
Alors que là, c'est tu te nourris. C'est mettre de l'essence dans la machine, en fait. Tu vois, c'est tu mets du fuel dans le moteur. Si tu te nourris jamais, je vois pas ce que tu peux restituer aux autres.
Je suis très d'accord sur l'essence. Romain, tu as souvent fait remarquer que moi j'étais capable de lire des livres pour faire des vidéos.
Ah, j'ai halluciné.
Et ben en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que je fais des vidéos parce que je lis. Parce qu'il y a un sujet en moi qui m'inspire, parce qu'il y a des gens qui racontent des choses, qui m'apportent un savoir que j'avais pas, et j'ai envie de transmettre ces connaissances à ma façon. Et je fais un mix de tous les livres que j'ai lus sur le sujet, de toutes les connaissances que j'ai, de mon avis sur la question. Et c'est ça qui me motive à faire une vidéo.
Mais je comprends totalement d'un côté, parce que regarde, depuis que je m'intéresse, ne serait-ce qu'à la bio d'Elon Musk ou autre, je vous en parle plus que quand je lisais pas cette fameuse bio.
Ouais, mais ça, on en a parlé.
Non, mais c'est ouf, mais c'est réellement le cas. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression parfois d'accéder à des infos un peu niche, en mode bah, s'ils sont pas allés à cette page là dans ce livre, finalement cette info tu l'as pas.
Alors déjà t'as accès à une parcelle de l'information qui est pas un tweet, qui est pas une vidéo YouTube, donc forcément t'as accès à des informations qui vont pas toucher la plupart des gens, et en plus t'imagines que par la lecture t'accèdes à la vie privée, à la pensée de mecs comme Steve Jobs, comme Elon Musk, comme Warren Buffett. Enfin, c'est forcément extrêmement riche, c'est exceptionnel, ouais, comme expérience.
C'est totalement différent d'un film, parce que ce qui marche pas dans un film pourra quand même marcher dans une page de livre. C'est toute la différence, t'as pas besoin d'embellir le truc.
Et puis il y a un rapport au support. C'est-à-dire que quand tu fais un film, l'économie du film, au sens macroéconomique, est fait que pour plaire au plus grand nombre. Parce que tu ne peux rentabiliser ton film que parce qu'il plaît au plus grand nombre. Donc forcément, on va prendre des raccourcis, on va simplifier, etc., etc. Parce qu'il faut que l'œuvre soit rentabilisée sur le plus grand nombre. Un livre, c'est pas du tout la même économie. Donc un livre, tu peux t'attarder, tu peux faire des détours, tu peux rentrer dans des détails. T'en as même besoin, parce que dans la mesure où ça n'est pas un produit qui te bombarde des images à la tête, et donc c'est un produit implicite, c'est pas un produit explicite. Donc il faut, au contraire, bombarder le lecteur de détails pour qu'il puisse s'imaginer la scène, activer son imaginaire, etc., etc. Faire en sorte qu'il s'évade avec toi. Et tu as besoin de passer du temps à décrire les choses pour l'embarquer dans l'histoire.
Ouais.
Donc ce ne sont d'ailleurs pas du tout on pourra y revenir tout à l'heure, mais pas du tout les mêmes zones du cerveau qui sont activées quand tu regardes un contenu que quand tu lis un contenu.
Et selon moi, la différence la plus importante, c'est que dans un film, on raconte plus qu'on ne transmet, et dans un livre, c'est l'inverse.
Ben, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai lu le dernier livre de Jordan Belfort, avec le fameux truc du Wolf de Wall Street, bah, c'est beaucoup moins excitant de le lire que de le voir en vidéo. Hein. C'est-à-dire que le film Le Loup de Wall Street, ça te montre le cul, le machin, la drogue, les trucs, hop, pump it up de tous les côtés.
Ben, on voit ce qui t'excite.
Non, mais le livre, il est con. Je vais l'appeler ma fille à certains moments. Le livre, c'est réellement la partie la plus chiante, en fait, le travail. Le travail qu'il a dû endurer pour faire les coups foireux, certes, mais les coups quand même qu'il a réussi à faire. Et ça te montre tellement ça que quand j'ai lu le livre, j'ai fait... Ah ouais, c'est quand même beaucoup moins glorieux que le film qui te montre que les parties les plus rigolotes du résultat. Quoi.
Ouais, mais c'est ça qui t'apprend.
Totalement.
Et puis, on n'active pas du tout les mêmes choses, en fait. Il y a des études qui ont été faites sur la lecture. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a comparé des gens qui lisaient à des gens qui ne lisaient pas. Et les gens qui lisent, sans considération de savoir ce qu'ils lisent. Ils peuvent lire des BD, le journal, peu importe. Hein, ils peuvent lire n'importe quoi.
Donc ça dépend des facultés que ça a développées.
À des gens qui ne lisent pas, tout simplement. Et en fait, on se rend compte que lire aide à comprendre les autres, à comprendre d'autres cultures. Lire développe l'empathie, ce qui n'est pas le...
C'est incroyable.
Ce qui n'est pas le cas. Lire permet de mieux écrire, augmente ton niveau de vocabulaire.
Ça, c'est certain.
Parce que quand tu lis, tu, forcément, le mot, tu le vois. Alors que quand tu regardes une vidéo, tu peux comprendre ce que veut dire un mot, tu mobilises tes oreilles, mais tu ne mobilises pas tes yeux.
Puis le vocabulaire d'un livre est souvent plus développé que le vocabulaire d'une vidéo sur YouTube. Moi, ça m'arrive souvent qu'il y ait des gens qui me demandent...
Sans vidéo YouTube, mais même un super beau film.
Oui, non, bien sûr. Je parle pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent quelles études j'ai faites, etc. Parce que parfois, j'ai un vocabulaire qui est un peu plus soutenu que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et en fait, j'ai fait aucune étude par rapport à ça, j'ai juste lu des livres.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, donc t'as plein de synonymes, plein de choses qui te viennent
beaucoup
plus facilement en tête.
C'est vraiment la seule, c'est la plus grande formation qui m'a permis d'écrire, c'est de lire.
Ces mêmes études démontrent que quand tu lis, tu as une meilleure capacité de raisonnement. Tu fais plus facilement face à l'adversité ou à l'opposition, parce que tu es capable de convoquer des arguments et donc de construire un raisonnement, en fait. Tu fais beaucoup plus facilement face à la peur ou à tes peurs parce que tu te raccroches à ce que tu as lu, à d'autres raisonnements, etc., etc. Donc il y a plein de bienfaits à la lecture.
Puis il y a que ça en fait.
Romain il me regarde bizarrement.
Mais ouais, mais parce que pour moi c'est toujours c'est très facile de l'entendre, beaucoup plus difficile de l'appliquer. C'est-à-dire que aujourd'hui ça me demande vraiment un temps à consacrer. Et quand je suis pris dans le truc, après 4-5 pages et tout, d'un truc qui m'intéresse, ça y est, je suis parti. Je peux lire une heure, deux heures et tout. Alors pour m'y mettre, parfois ça prend deux semaines. C'est-à-dire qu'avant que je trouve ce moment où je me dise, tiens, là maintenant, j'ai vraiment un temps à y consacrer. Par exemple, je suis admiratif des gens qui me disent, oh ben moi, je prends le bus, je lis 2 minutes, et puis je prends le métro, je lis 3 minutes. Et puis, mais moi, c'est impossible, les gars. Moi, il me faut mon moment, mon verre de whisky, mon truc, mon machin, pour que je sois dans des conditions
pas tout.
Parfaites.
Et qui s'endort vite.
mais au final, si tu fais un dézoom sur ta vie,
ouais.
Tout ce qui prend le plus de temps, tout ce qui prend le plus d'énergie, de travail, de travail sur toi, c'est tout ce qui t'est le plus bénéfique.
Totalement.
Le fait de sortir de ton lit, d'aller courir, d'aller faire du sport, etc., c'est toujours très difficile.
C'est
mais
vrai.
Au final, c'est ce qui t'apporte le plus
le COVID.
Bienfait. Fuck le COVID, mais au final, c'est toujours ce qui t'apporte le plus de bienfaits.
C'est exactement le parallèle que j'allais faire. C'est le même rapport que tu as au sport. Tu sais que le sport est bon pour ta santé, et pour autant, beaucoup ne s'imposent pas de routine sportive. Or, si tu veux, il y a plus de démonstrations scientifiques à faire. On sait que le sport est bon pour la santé.
Et moi, là-dessus, c'est ça.
Bah, la lecture, c'est pareil.
Ouais, okay. Ouais.
C'est vraiment de l'hygiène mentale, la lecture.
Et vous avez justement une routine pour lire ? Vous avez dans votre agenda mis une heure lecture.
Je n'ai rien dans mon agenda, déjà.
Oui, bon, toi, on le connaît. On le connaît, ton agenda.
À part quand vous m'envoyez les notifs. Non, moi, ça dépend des envies, en fait. J'ai une centaine de livres à lire et je mets du temps à le faire. Là, en ce moment, par exemple, je lis rien. Mais je vais acheter, à un moment, je vais m'intéresser à un sujet, je vais acheter 4-5 livres sur le
tu
sujet.
Tu lis rien et tu produis pas de vidéos. Que fais-tu, Léo, en ce moment?
Mais c'est exactement ce que ça dit. J'ai pas mon essence, tu vois. Mais de temps en temps, il y a un sujet qui m'intéresse, je vais acheter 4-5 livres sur le sujet, je vais les poncer pendant un mois, et je vais faire que ça. Bon, je déconne, hein, mais je vais lire tous les jours sur ces livres-là, et puis après, ça va vraiment m'inspirer. Et en fait, ça me manque quand je lis pas, mais je me mets pas forcément à le faire pour autant, tu vois. C'est vraiment, il faut que je me force. Je veux bien appuyer là-dessus, parce que je veux expliquer aux gens que c'est pas parce que je lis que je kiffe ça. C'est juste, je sais ce que ça m'apporte.
Et d'ailleurs, il faut pas avoir une approche académique de la lecture. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a d'abord l'approche élitiste, imposer des lectures très classiques, etc., etc. C'est pas forcément la meilleure chose à faire pour intéresser les gens à la lecture. Le plus important, c'est de leur choisir des trucs qui leur parlent, parce que c'est ça qui va leur donner envie de lire. Même si, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, les classiques et la culture générale et les basiques, c'est quand même des fondamentaux qui sont nécessaires de lire. C'est juste qu'on nous les fait pas forcément lire à la bonne époque, en fait. Mais à côté de ça, il y a aussi une approche très frustrante vis-à-vis de la lecture. C'est-à-dire qu'on t'établit plein de règles. La première, c'est qu'on te dit, si tu as commencé un livre, tu dois le finir. Moi, je m'applique pas à cette règle.
Oui, c'est la pire chose.
Si l'auteur est nul, si à un moment il n'arrive pas à m'emmener, que ce qu'il dit m'emmerde, etc., je vais sauter des chapitres, je vais voir s'il a d'autres passages.
On a le droit ?
Qui vont m'intéresser. Et
non, mais attends, je suis sérieux. Hein.
J'y arrive. Et au bout d'un moment, s'il a mal fait son boulot, ben j'arrête. Parce que son boulot, c'était de capter mon attention.
Parce que, genre, dans la bio d'Elon Musk, t'as des moments où il raconte comment il a fabriqué la fusée. Excuse-moi, les moments où il y a les calculs et tout. Non, mais c'est super intéressant. Il y a certains moments qui sont intéressants. Mais il y a des trucs où. Bon, t'es là en mode, ok, j'ai compris que t'en as chié. Quand est-ce que tu lances ta fusée? Quand est-ce que ça se passe? Moi, c'est parce que ça se. Tu vois.
Après, faut pas être trop impatient. Le deuxième élément que je voulais évoquer.
Tu vois, il me casse derrière. En fait, j'ai pas le droit.
Non, mais.
Si, t'as le droit.
Pour le coup, t'as une approche où tu te forces. Et ça, c'est dommage. Parce que du coup, effectivement, ça va t'éloigner de la lecture. Moi, il y a plein de fois où il y a des livres qui sont intéressants pour certains passages. Et j'en passe plein. Parce que juste, ils m'intéressent pas. C'est parce que je suis venu chercher.
Et quand tu lis, tu prends des notes, par exemple? À certains moments ou...
Alors, je prends des notes, ouais, en général, juste...
Ou tu surlignes sur Kindle.
Je surligne avec Kindle et après, je relis tout.
Le deuxième élément, c'est qu'on te dit souvent que tu peux lire qu'un truc à la fois.
Ouais.
Moi, j'ai jamais un seul livre en même temps en cours.
Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est là où je suis un peu plus long, du coup. Mais c'est que parfois, je me fais un chapitre d'un truc et puis un autre. Mais ça me permet, en plus de ça, de comparer, dépendant des thèmes et tout. Je trouve ça
ouais,
cool.
Ouais, mais tu peux aussi lire des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Ouais.
Tu vois, moi, je lis des tonnes d'études sur des tonnes de sujets très différents les uns des autres. À côté de ça, j'ai 2-3 bouquins en cours. Mais j'ai jamais un seul truc en cours. C'est impossible. Je lis toujours plein de trucs différents les
uns
des autres.
Mais parce que vous êtes pas dans de la consommation de fiction, etc. Ce qui est difficile, c'est quand tu lis un livre avec 15-20 personnages et que t'en as qu'un autre avec 30 ouais. personnages, là, ça devient compliqué, je pense.
Pas forcément, je pense que ton cerveau est bien foutu et qu'il va pas mélanger...
Tu parles à Romain,
bon, alors, à un moment, tu vas pas mélanger, je sais pas moi, Lovecraft avec les X-Men, quoi, tu vois, c'est pas possible.
Okay, ouais,
c'est deux choses qui n'ont rien à voir,
je comprends.
En fait.
Okay.
Donc voilà, bon. Et je pense qu'il faut pas avoir... Faut pas s'interdire des choses. À partir du moment où le truc t'intéresse, que t'es motivé, etc., pas d'approche élitiste, pas d'approche académique, vas-y, lis. Peu importe, j'ai envie de dire quoi, quand, comment, combien, etc. Mais lance-toi dans la dynamique. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça sera déjà beaucoup mieux que rien du tout.
Mais c'était justement ma question. Est-ce que vous avez des moments plus propices à la lecture? Je sais qu'il y en a qui sont justement dans les transports en commun, d'autres qui sont avant de s'endormir. Moi, je sais que par exemple, la lecture m'aide vachement à m'endormir. Et en général, je passe vraiment des meilleures nuits quand j'arrête d'utiliser mon smartphone autour des 20h, 20h30 et que je dîne et que vers 22h, je commence à lire. À 22h30, 22h45, je m'endors, ce qui fait que j'avance petit pourcent parce que je lis une demi-heure, on va dire. Mais ça me permet vraiment de passer, par exemple, une meilleure nuit. Je sais que plutôt certain. Que d'avoir des écrans, lire, faire travailler mon imaginaire et autres, ça me fatigue beaucoup plus vite.
Et puis ça endort de fou, le simple effet de lire, oui, ça endort carrément. Pour moi, au réveil, enfin, en tout cas, le matin, plus généralement, et le soir avant de s'endormir, c'est les meilleurs moments.
J'ai jamais essayé de lire au réveil, mais sachant que c'est souvent ces moments où je suis très créatif, où j'ai envie de faire plein de trucs, ça me frustre. J'ai l'impression d'être bouillant et de finalement faire un petit truc.
Non,
d'avoir un livre.
Justement, ça la développe encore plus cette créativité.
Ah, je vais essayer. Ok. Bah voilà. Ok, bah, je vais me réveiller une demi-heure plus tôt et puis je vais lire une demi-heure. Voilà, ça c'est ma façon de faire. J'ai pas le temps, si tu le prends, connard. Tu fermes ta gueule et tu le prends.
Je sais pas s'il y a un bon moment. Moi je lis quand... C'est mon premier réflexe quand, quand j'ai du temps.
Ouais.
Quand j'ai fini de faire tous les trucs que j'ai à faire, mon premier réflexe...
Les objectifs que tu t'étais fixés. Parce que les gens, ouais, sinon, ils se fixent aucun objectif. S'ils n'ont pas écouté les derniers podcasts qu'on a fait, ils ont une montagne de trucs. Tout ce qu'ils doivent faire dans l'année, ils ont l'impression que du coup, tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas de temps pour eux. Complètement con. Enfin, une fois que tu as fixé tes objectifs de la journée et que tu les as réalisés, là, tu te dis que tu as du temps free time.
Et c'est mon premier réflexe. Mon premier réflexe, c'est pas d'allumer la télé, d'écouter la radio, de,
c'est pas un
etc. Non, mon premier réflexe, c'est de me dire tiens, je vais me lancer, je vais reprendre quelle lecture.
D'accord.
Et t'as pris l'habitude, je pense, mais c'est un vrai combat contre soi-même. Ça, hein. C'est important d'expliquer aux gens que c'est normal de pas toujours avoir envie de lire.
Mais c'est pour ça que je suis honnête et que je vais pas faire genre en mode oui, c'est important. Regardez ce que ça a développé chez moi. Enfin, je vous montre à quel point j'en chie. Hein. Mais pourtant, je sais que c'est super cool, quoi.
Ouais. Bah, plus que cool, je pense que c'est vraiment nécessaire. En fait, pour tous les gens qui, comme moi, adorent gagner des débats et ruiner des discussions, lisez un livre sur le sujet, vous avez gagné d'avance, en fait.
Quand tu débats, hein, parce qu'il y a des moments où on ne cherche pas à débattre. Hein.
Vous avez gagné d'avance, donc lisez des livres.
Et il n'y a pas besoin de lire beaucoup, alors ça ne va pas aider Romain, mais il n'y a pas besoin de lire beaucoup pour avoir des bienfaits sur ta santé intellectuelle et même physiologique. Il y a plein d'études qui ont été faites sur l'impact de la lecture sur ton cerveau et ta santé. Et il suffit de 6 minutes de lecture pour que tu perdes la notion du temps.
Ouais, bah oui, c'est vrai. La dernière fois, j'ai commencé à lire à 18h30, j'ai regardé juste l'heure. Je me suis dit, je vais préparer à dîner vers 19h, 19h30. Il était 20h45 quand j'ai arrêté de lire. Mais j'étais tellement plongé dans le truc, c'était tellement bien.
Et ça fait vachement de bien à ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau débranche... c'est ton imaginaire qui fonctionne. Il y a une étude de fait par le Collège de France, donc le Collège de France n'a rien à voir avec le Collège Romain. Le Collège de France, c'est un institut de recherche en France.
Et Léo aussi, hein, pourquoi
ouais,
moi
je savais pas non plus. Hein.
Voilà.
Ah bon?
Merci Manuel. Non, c'est enculé.
T'es en face de moi en même temps, c'est toi que je vois le plus facilement. Mais t'es un peu dans la cible. Donc le Collège de France, ça date du 16e siècle et tout, mais bon, peu importe. On pourrait en reparler. Avec la lecture, le nombre de connexions neuronales augmente entre différentes régions du cerveau. Donc en fait, c'est un peu comme un entraînement pour ton cerveau. Tu arrives à connecter des zones ensemble qui ne sont pas sollicitées par d'autres types d'activités.
On ne dit pas que ça vous rend moins con. Hein. Vous pouvez toujours être con en lisant, hein, mais vous vous en rendrez peut-être compte.
La lecture n'a pas de rapport avec l'intelligence. En fait. Ouais. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a des enfants dyslexiques qui ont du mal à rentrer dans la lecture avant l'âge de 11-12 ans parce que on va pas rentrer dans les détails, mais pour des tonnes de raisons. Parce que la lecture est un mécanisme complexe quand tu es dyslexique, parce que l'espacement entre les lettres joue sur ta capacité à lire correctement.
C'est fou. Okay.
Et qu'il faut adapter. Et d'ailleurs, le numérique est une excellente solution pour la dyslexie parce qu'on peut adapter la forme du livre, l'espacement entre les lettres, le type de typographie utilisée, etc. Et ça aide beaucoup les dyslexiques à s'approprier la lecture. Et le numérique est une super solution pour ça. Mais bon, bref, tout ça pour dire que on va dire à peu près vers 5 ans, quand tu apprends à lire, jusqu'à l'âge de 11 ans, il y a des tonnes de gens qui sont catalogués comme peu intelligents, pas intelligents, mauvais élèves, ou je sais pas quoi, tout simplement parce qu'ils ont une vitesse d'appropriation de la lecture plus faible que la moyenne. Pour autant, à 11-12 ans, on se rend compte qu'ils sont parfaitement intelligents, qu'ils mènent des raisonnements incroyables, qu'ils sont doués dans des tonnes de matières, etc. Ça a juste mis plus de temps à s'installer. Donc la lecture n'a pas de rapport avec ton niveau d'intelligence. On se rend juste compte qu'il y a des zones de cerveau qui sont stimulées par la lecture, qui ne le sont pas si tu ne lis pas, ouais. En fait.
Après, la lecture développe pas, je pense, l'intelligence, ça n'a rien à voir. En revanche, ça te cultive plus, ce qui est une forme d'intelligence.
La connaissance, ouais. Ça augmente ton niveau de connaissance. En plus, ce que tu lis, tu le stockes beaucoup plus que ce que tu écoutes, ce que tu entends et ce que tu regardes, en fait. Et c'est très bien, la vie est assez faite et assez bien faite pour qu'il y ait une relation entre l'effort et le niveau de connaissance. Et je trouve ça très bien fait. Mmh. Si tu fournis un effort, cette connaissance sera beaucoup plus ancrée en toi que si tu en as fourni peu.
C'est ouf.
C'est plutôt pas mal.
On peut imaginer que quand tu lis, tu fais des abdos. Et quand tu regardes un film, t'as acheté sur téléachat, tu sais, le truc pour stimuler tes abdos, là, qui vibre sur ton corps. C'est un peu la différence.
Vous lisez sur quoi, vous, aujourd'hui? Sur des livres? Vous achetez un livre et vous lisez sur du papier ou...
Moi, j'achète de plus en plus de livres papier. Je sais pas ce qui m'arrive. En fait, ça dépend. Il y a des livres, je sais que je veux en retenir beaucoup, beaucoup d'informations, des passages, des citations, etc. À ce moment-là, je les achète sur Kindle et je les lis sur mon iPad, en fait, pour pouvoir simplement retenir des infos.
Kindle qui est la liseuse, hein. On en parle depuis tout à l'heure, mais bon, je pense que ça parle à tout le monde.
C'est une liseuse électronique. Il y a aussi Kobo de la Fnac, etc.
Avant tout, c'est un format. Après, tu peux utiliser un device pour le lire qui peut être un Kindle fabriqué par Amazon
ou ton smartphone.
L'application Kindle qui existe sur ton smartphone, sur ton iPad ou autre.
Ouais. Mais et que les gens oublient trop. On en a parlé dans un précédent podcast, mais moi, c'est principalement quand je suis dans les transports et autres et que j'ai envie de m'occuper avec des bonnes connaissances, de juste ouvrir l'application. Quoi.
Ouais, carrément. Mais du coup, de plus en plus, ouais, j'achète des livres pour juste les avoir. Ça me fait plaisir de lire sur du papier, de décrocher aussi un peu des écrans. Et ça, en vrai, c'est important quand on lit, de décrocher des écrans et en même temps d'être toujours focalisé sur quelque chose. Donc moi, ça m'aide beaucoup aussi.
Des vrais livres. Hein.
Des vrais livres papier.
Pas que la tranche pour faire beau dans les vidéos.
Ah oui, non.
Comme
ça, c'est
influenceurs.
Non, mais il y a eu un scandale là-dessus. Moi, je ne l'ai pas suivi. Vous me l'avez appris, mais c'est incroyable. Il y a des faux livres qui se sont vendus juste pour de la déco.
Ouais. C'est ça.
Et ceux qui l'ont reçu se sont vantés que ce soit un faux livre.
Exactement.
Ouais, c'est incroyable. Vidéo.
Parce qu'ils étaient payés pour, mais oui.
D'accord, c'est incroyable. Ok, c'est fou. Et toi, Manuel ?
Moi, je lis principalement sur Kindle et en papier.
D'accord, les deux.
Ouais, franchement, si j'ai le choix, je vais plutôt acheter en Kindle parce que ça me fait chier de me trimballer quand je me déplace avec un gros sac et plein de bouquins. Moi, si je pars une semaine, il me faut 5-6 livres.
Ah oui.
Donc, c'est un peu encombrant. Donc, je préfère me partir avec mon app Kindle ou mon Kindle physiquement, voilà, qui a une autonomie incroyable, etc. Mais il y a plein de bouquins que je lis en papier aussi. Il y a des gens qui s'essayent à m'offrir des livres. C'est un exercice assez dangereux. Mais ça se tente. Et après, j'ai d'autres bouquins que je consomme que en papier, qui sont essentiellement des bouquins d'art. Parce que là, le form factor joue beaucoup. Et le papier, le tirage photo, etc., joue énormément dans ton rapport à ce bouquin-là.
Bah, écoute, c'est là-dessus où je rebondis un petit peu aussi. Il y a des livres que j'ai quand j'adore le livre de base, j'aime bien l'avoir physiquement à la maison. Ouais. Je trouve que ça coule, c'est un bel objet aussi. Donc il y a pas mal de bio que j'ai physiquement. J'utilise sinon Kindle, exactement comme vous, pour pouvoir lire quand je le souhaite. Et après, là où je rejoins vachement Manuel, bon, moi j'ai aussi la grosse passion des livres. C'est-à-dire que je peux acheter 5 ou 6 bouquins à 80€ l'unité, sans déconner, hein, des vrais beaux livres photos. Je vais peut-être les ouvrir deux fois dans l'année, mais je vais les ouvrir pendant 2h30, 3h en regardant toutes les photos, toutes les histoires. Il y a un livre, par exemple, que j'ai trouvé fabuleux. Alors, on en pense qu'on veut de l'artiste. C'est le livre qui retrace tous les shootings photos dans la vie de Rihanna. C'est un bouquin énorme qui est rose fuchsia colossal. Je me suis posé 4 heures en plein après-midi dessus. Mais c'est incroyable. Tu vois les photos dans plein d'habitats différents où elle t'explique tous les backstage et tout. Moi, je trouvais ça super chouette. Voilà.
Alors, je ne suis pas sûr de toutes tes motivations derrière le fait de regarder des photos de Rihanna. Mais bon, ça, c'est.
Je les aurais en meilleure qualité sur Google si j'étais, j'étais moins intéressé par l'art tout court.
C'est
mais
un
non.
Autre débat. Par contre, moi. Pour tout vous dire, ma belle-mère m'a offert le bouquin de Apple.
J'allais demander s'il n'y avait pas un viewer qui voulait me l'envoyer.
Bah, moi, je l'ai.
C'est incroyable sur les produits Apple avec les photos exceptionnelles. Là. C'est une relique ce truc.
Je ne l'ai pas vu, moi.
Il est exceptionnel ce bouquin.
Ah oui ?
Exceptionnel.
Et je suppose qu'il est plus en vente ?
Non, il était collector, vendu que en Apple Store.
Allez,
etc.
Hop, Katawiki, on va chercher.
Ouais,
eBay, on va chercher.
Un million maintenant.
Non, sérieux, vous pensez ?
Il est exceptionnel, il existait en deux formats. Un format.
J'ai cru en deux exemplaires, j'ai fait OK. En fait, le mec, il a vraiment 2 millions chez lui en un livre. Quoi.
Et un grand format. Les photos sont exceptionnelles. La façon de raconter l'histoire à travers le design industriel des produits Apple est exceptionnelle et tout. Et j'adore ce livre. J'adore ce livre. Si tu veux comprendre l'ADN de la marque, eh ben, il faut rentrer dans cette histoire. Il faut te laisser compter l'histoire de la marque à travers les produits et le soin qu'elle a mis dans le design de ses produits.
Et encore une fois, ce sont des infos que tu n'auras jamais si tu ne vas pas vers la lecture. C'est vraiment la lecture, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Et elle est énorme.
Mais de toute façon, on le voit, c'est le point commun de tous les plus gros entrepreneurs dans ce monde.
Ouais.
Ils lisent. C'est une faculté à l'accès à l'information.
Oui, et pas que les entrepreneurs d'ailleurs. Hein, c'est tous les gens qui cherchent à, d'une façon ou d'une autre, à avancer. En ouais. fait.
Et c'est pour ça, je pense, que la lecture paraît élitiste. Parce qu'en général, ceux qui t'en parlent, ce sont les entrepreneurs, les gens qui réussissent plutôt bien dans la vie. Mais en fait, c'est une cause, le fait qu'ils aient réussi. C'est pas du tout la motivation.
Et puis, lire, c'est aussi accepter qu'on n'a jamais fini d'apprendre. T'as toujours un nouveau truc que tu vas aller chercher quelque part, en fait.
Ou une vision différente, un point ouais. de vue différent,
Exactement.
Etc. Non, c'est ce qui est le plus intéressant, je trouve. C'est de pouvoir avoir accès à autant de points de vue différents que ne nous permettent plus aujourd'hui les réseaux sociaux. Avec tout ce référencement, la façon d'aborder aujourd'hui un réseau social, ils vont forcément vous proposer ce que vous allez vouloir consommer. Donc souvent, ce sera votre point de vue que vous allez surconsommer. C'est justement ma dernière question, c'est tout ce qui est actualité, news et autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez Google News comme tout le monde? Est-ce que tu continues par exemple de lire des magazines plutôt à l'international ou des journaux, pardon, je voulais dire plutôt à l'international? J'en vois beaucoup, par exemple, dans l'avion. Tu vois, quand ils prennent l'avion, ils prennent plein de journaux.
Ouais, y a aussi le côté offline dans l'avion qui est pas...
C'est vrai, voilà. Qui aide pas, c'est voilà. pour ça.
Mais moi, pour le coup, la presse, je lis la presse sur iPad.
D'accord.
J'ai un abonnement.
Ah ouais ?
Et j'ai ma presse préférée sur iPad. Donc, j'ai Le Monde, Le Journal du Dimanche, Les Échos en français. Et ensuite, j'ai le Washington Post, The Economist et quelques autres...
Voilà. Moi, je ne lis que les médiathèques, puisque de toute façon, le reste me tombe dessus sur Twitter ou autre. Mais je m'attarde vraiment sur les médiathèques.
Et tu penses que du coup, tu ponces autant le sujet quand ça te tombe sur Twitter ou quand tu vas vraiment chercher du coup le. Tu vois...
Je lis la tech parce que c'est ce sujet-là que j'ai envie de poncer.
D'accord.
Le reste m'intéresse moins.
Vous arrivez du coup à quantifier le temps à peu près. Enfin, on a beaucoup dit aujourd'hui que ça dépendait. Quand est-ce que vous en aviez envie, etc. Mais moi, je suis toujours étonné, Manuel, avec quand je connais personnellement ton emploi du temps dans les deux fuseaux horaires, etc., dans même plusieurs fuseaux horaires, de me dire, putain, t'arrives à te prendre le temps pour avoir ton abonnement sur l'iPad, arrière des news et de la presse, l'abonnement Kindle pour regarder, tu vois, certains livres, et t'en lis pas qu'un à la fois, en plus. Je me dis, comment tu forcément, indirectement, t'organises ça, mais ça t'arrive souvent d'avoir du free time pour consommer ça? La presse, est-ce que c'est une routine pour le coup, la presse? Est-ce que tu travailles le matin et tu regardes la presse, quoi?
Ouais.
D'accord.
C'est
voilà, ça c'est une routine.
Le matin.
D'accord.
Enfin,
okay.
C'est pas le premier, mais ça fait partie des premiers trucs.
Après, t'allais pisser, quoi. Voilà.
Entre autres, mais
pendant.
pas pendant. Mais non, ça fait partie des trucs que je regarde le matin. Moi, j'adore le Journal du Dimanche. C'est un journal que j'aime beaucoup. Il ne peut pas se passer un week-end sans que je lise le Journal du Dimanche.
Ok.
C'est un journal que j'adore. Voilà. Comme je sais pas, moi, j'adore le Times, j'adore The Economist, qui est un magazine que j'aime beaucoup.
Tu lis beaucoup en anglais aussi, on l'a pas spécifié, mais pareil, si vous voulez apprendre des langues étrangères,
Bien
si
sûr.
Vous avez une certaine déjà maîtrise de base, le fait de continuer de lire dans cette langue-là, vous allez beaucoup plus progresser que si vous consommer du contenu audiovisuel.
Et l'information est souvent plus pure aussi en anglais, enfin en tout cas dans sa langue originale.
Ça, moi, c'est une étape que j'ai jamais réussi à passer. Autant les contenus à lire, les films, etc., ok, mais alors...
Bah, c'est
lire...
comme un film, tu regardes pas un film en VF.
Ah non, ça, on va pas avoir cette discussion, non, Niki et Otras, il y a pas des voix
pourquoi
off
aller,
pour rien.
Pourquoi aller? Moi, je suis d'accord avec...
Toi, t'es d'accord en plus
VF,
avec moi.
Hein,
oui, c'est vrai, toi, t'es d'accord
toi,
avec la VF.
La VF, toi?
Ah, mais moi, je fais un peu les deux, mais souvent en VF, oui, mais
non,
on peut faire un autre podcast là-dessus, oui.
C'est pas possible.
Merci non, d'ailleurs aux comédiens de doublage qui sont exceptionnels en
bah
France.
Oui.
Non, mais
beaucoup.
Ça, c'est un vrai métier que je respecte énormément.
Bah, apparemment.
Mais si, pour les dessins animés. Mais, mais non, en VO, tu regardes tout en VO, quoi. Tu vois, tu perds toute la saveur, les intonations, t'as pas la vraie voix du mec, les lèvres correspondent pas avec ouais. ce qu'il dit, enfin, bon, y a rien qui enfin, va.
Plutôt
quoi.
Que de mener ce combat-là, j'aimerais bien que tu regardes le film que je t'ai conseillé il y a 6 mois, en VF ou en
oui,
VO,
bah,
ce que tu veux, mais.
Oui, en VO, ça va être compliqué, il est en coréen, ton
moins,
film.
Au moins, regarde-le, s'il te plaît.
Donc, voilà. Alors, Léo me conseille des films coréens. Oui, c'est vrai que je le confesse, je ne me suis pas jeté dessus pour l'instant, en fait. Mais pour revenir à la lecture, en matière de business, si on parle de bouquins de business, ouais. ou de, etc., etc., où beaucoup sont édités en anglais. Après, on va pas avoir le débat de est-ce que c'est normal, pas normal, etc. Mais bon, peu importe, c'est comme ça, c'est édité en anglais. Il y a énormément de ces bouquins qui ne sont jamais traduits.
Ouais.
Parce qu'ils ne feraient pas assez d'audience ou le potentiel de marché en langue française n'est pas assez gros, etc. etc. Donc, lire en français, c'est lire en retard, le temps de la traduction, et ne pas tout lire, te couper d'une partie des infos, parce que beaucoup de bouquins ne sont jamais traduits.
Lisez quand même, même si c'est en français.
Oui, non, bien sûr.
Enfin, lisez quand même.
Sûr.
Voilà, mais
peu importe.
Mais parce si que moi, tu... ça me déprime là, ce qu'il dit. Ok.
Mais si tu peux, ouais. Lis en anglais, quoi. Et c'est beaucoup moins difficile que les gens ne l'imaginent.
Moi, pour te répondre, finalement, je crois que je lis plus d'articles sur Medium, par exemple, que de livres. En tout cas, ces derniers mois. Medium, c'est un média sur lequel on peut lire des articles écrits par des indépendants.
Ah ouais, ok.
Ils ont vraiment une page où ils écrivent des articles, etc. Et je suis beaucoup d'auteurs là-dessus. Et en général, c'est des articles qui sont assez courts, ça va de 5 à 10 minutes. Et pour commencer à lire des choses un peu plus intéressantes que des trucs en 280 caractères sur Twitter, je pense que Medium est vachement intéressant. Moi, je lis énormément, j'apprends plein de choses, tu vois il y a des actus, mais il y a aussi des avis. Et souvent, moi, je me cale sur ce genre de médias pour essayer de développer quelque chose derrière pour ma chaîne YouTube. Il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes sur Medium.
Medium, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire.
Oui.
Sincèrement, pour vous habituer à lire, à commencer à lire des articles, avant même vous attaquer à des bouquins, attaquez-vous déjà à du contenu Medium. Moi, c'est une plateforme que j'adore. J'ai publié sur Medium pas mal de trucs. En plus, tu peux facilement publier sur Medium.
Ouais.
T'as pas besoin d'avoir un blog ou je sais pas quoi. Tu peux publier sur Medium à côté vraiment, d'auteurs hyper connus.
Incroyable.
Et pour autant, malgré ce côté accessible, c'est extrêmement pertinent comme média. C'est toujours très pertinent. À chaque fois que je lis un article, c'est super intéressant, c'est passionnant, c'est pertinent. Moi, ce média me fascine.
Oui, c'est vraiment de très très bonne qualité. Tu peux trouver vraiment du contenu court qui te donne envie. En plus, tu peux filtrer par thématique, tu peux filtrer en fonction de tes goûts, etc. Et ça sera mieux que Twitter, où sur Twitter, tu lis pas. Enfin, en tout cas, c'est comme si tu lisais que des titres de livres, mais tu lis pas de contenu. Il n'y a pas la place.
Bon, on a déjà conseillé Medium, mais on peut pas avoir parlé autant de lecture sans faire un petit top 3 entre nos livres.
Un top, en tout cas.
Ouais, voilà, une sélection. Léo, si t'as un premier livre à conseiller aux gens.
Alors, La généalogie de la morale de Nietzsche.
À tes souhaits.
C'est évidemment faux. Non, bah, j'en ai parlé plein de fois, mais comment ne pas le citer, puisqu'il a changé ma façon de voir mon métier et mon quotidien. C'est La guerre de l'art de Stephen Pressfield, qui parle de cette espèce de combat contre soi-même qui est de mener une vie dans l'art, de travailler dans l'art, dans la créativité, etc. Et même si vous êtes pas, il n'y a pas besoin d'être peintre ou dessinateur pour apprécier ce livre, je vous le conseille à tous parce qu'il parle aussi de travail et il parle de combat contre soi-même et c'est vraiment passionnant comme vision de la chose.
Trop bien,
super bouquin.
Tu rappelles le nom, juste enfin pour...
La guerre de l'art.
La guerre de l'art,
On vous mettra en description
bien sûr.
Tous les liens. Alors moi, je vais avoir du mal à faire un top 3. J'en ai plein des livres à vous conseiller. Le premier que je conseillerais, c'est Never Split the Difference, qui est un livre sur la négociation. Et tout est négociation dans la vie.
Ouais,
ton rapport aux autres est une négociation, tout est une négociation. Et le mec t'embarque dans comment négocier comme si ta vie en dépendait.
Et, peu importe ce que tu négocies.
Et c'est absolument
fou.
Génial. C'est Chris Voss l'auteur et il faut absolument lire ce livre. Alors, je sais pas s'il existe en français, mais on mettra les liens en description.
Ok. Moi j'en ai un et c'est le premier, c'est comme ça que j'ai un peu démarré aussi la lecture. Évidemment, bon, la biographie de Steve Jobs, ça, tout le monde la connaît. D'ailleurs, je l'avais pas terminé, tu vois. Il y a un moment où je me suis un peu plus emmerdé parce que je connaissais la fin, puisque j'ai un peu
il meurt.
Voilà.
Oui, c'est on l'a pas expliqué, c'est le problème avec les livres de non-fiction. Souvent, on connaît la fin en effet.
Le livre que j'ai beaucoup apprécié, contrairement à ce que je pensais au début, franchement, c'est le dernier livre qu'a écrit Jordan Belfort sur justement l'art de négocier, comment être un bon commercial par téléphone ou vendre une super bonne idée de la bonne manière, être toujours au meilleur de sa forme quand tu t'apprêtes à vendre une idée et autre en ayant des mémos très simples. Et enfin bref, je trouve ça pas mal raconté. Au début, on se dit bon, c'est un peu surdimensionné, un peu loufoque, le mec est quand même un peu barge. Mais au fur et à mesure, tu retrouves des trucs et tu fais putain, mais ça, si je l'applique à ce moment-là dans ma vie, c'est marrant. Ouais. En vrai, je pense que je gagne, tu vois, c'est rigolo quoi.
Tu vois, ça doit être passionnant. Ça doit être passionnant comme lecture. Et pourtant, je suis pas forcément la cible.
Bah ça, je l'ai bouffé très vite. Ça, pour le coup, c'est vrai que je l'ai bouffé très vite. J'ai fini le livre, je sais pas, je pense en 3 semaines. 3 semaines, un mois, j'ai fini.
Bah voilà,
le...
il suffit de bien choisir tes livres.
Ouais. Ouais. Bon, c'est inquiétant que ce soit Jordan Belfort et pas la bio de Steve Jobs que je l'ai fini sans doute.
On s'en doutait tous. Hein. Il y a que toi qui as surpris, Romain. Finalement.
Voilà, il y a un côté affinitaire, je crois.
Ils l'ont peut-être même rédigé pour toi.
J'en
ai un deuxième. J'ai lu tous les livres possibles et imaginables sur les habitudes. Quand on parle sur du développement personnel, on parle toujours des habitudes, du fait que vraiment, pour constituer une vie saine, pour bien travailler, pour avoir des relations saines, etc., il faut créer des habitudes dans sa vie, au même titre qu'on se lave les dents, aller faire du sport, etc. Bon, il y en a plein que vous pouvez développer ou non. Moi, j'ai pas développé le sport, par exemple, mais je me lave les dents. Ça, je le fais. Il y a un livre qui s'est révélé être la bible de ce sujet-là. J'ai jamais vu un livre aussi complet que celui-ci. C'est Atomic Habits de James Clear. C'est exceptionnel. Moi, je relis souvent les passages que j'ai surlignés parce que je pense que c'est un des livres qui, sincèrement, a changé ma vie.
Ok.
Au-delà de notre rencontre.
Oui, bien au-delà même.
Mais je suis 1000 fois d'accord, j'adore ce bouquin.
Ok, bah, ouais. Je vais m'y mettre moi-même. Je vais prendre la sélection que vous me faites, les gars. Je vais y aller.
Alors, j'en ai un autre. J'en ai plein d'autres, en fait. Mais pour en citer
il va y avoir 2/3 du podcast de Manuel
si
et 1/3 de
un épisode 2 de ce podcast avec tous les livres que tu recommandes, hein.
Voilà, on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Non, il y en a un autre que j'adore qui s'appelle We Are the Nerds, qui est le bouquin sur les fondateurs et la création de Reddit, la communauté Reddit, en fait.
Okay.
Et c'est vraiment un hymne à la culture nerd, et je trouve ça absolument génial, absolument génial. Faut pas trop déflorer le livre, en fait, mais voilà. Ouais. Si vous aimez la culture nerd, la culture vraiment tech, il faut absolument lire ce livre.
Ok.
Voilà.
Romain, t'en as un deuxième ?
Écoute, j'en ai déjà lu un dans ma vie, on va se calmer. La bio d'Elon Musk.
Ouais.
Je trouve ça génial.
Enfin, ou 40, au moins la première moitié.
Quelle bête. Ouais. Après, il y a d'autres livres, mais je sais pas, c'est moins. Tu peux les recommander dépendant de. Mais par exemple, j'avais lu un livre, c'était La bourse pour les débutants. Quand je voulais apprendre en bourse et tout ça, je trouvais plein de trucs différents sur internet qui valaient tout et rien dire, qui t'expliquaient de plein de manières différentes. Il y en a un qui appelait un truc la chandelle, l'autre il t'appelait ça l'un, truc machin. Enfin, plein de termes utilisés différemment. Et finalement, tout voir par un seul et même auteur dans un seul bouquin, ça te permet d'y voir beaucoup plus clair dans le sujet et ensuite de l'aborder sur Google d'une manière différente.
Mais aussi parce que faire un livre, ça oblige à structurer un propos.
Ouais.
Tu peux pas faire ça comme une vidéo ou autre, sans être méchant avec les vidéos ou même les podcasts d'ailleurs, où là on a notre discussion et tout. Mais quand tu écris un livre, tu sais que d'abord ça va rester figé.
Tu peux pas faire une image, quoi.
Ah non, ça va être compliqué de faire un update comme ça. Et donc, t'es obligé de structurer ton propos, de te dire, attends, là, est-ce que je suis clair? Est-ce que j'ai bien amené le truc? Est-ce que je suis pédagogue? Est-ce qu'ils vont comprendre, etc. Donc, c'est beaucoup plus structuré pour acquérir de la connaissance. Et d'ailleurs, à ce sujet, toute la collection pour les nuls, des fois, le titre rebute les gens parce que ça leur fait peur, etc. Alors qu'en général, ce sont de super bouquins quand tu veux te déniaiser sur un sujet. Quand tu veux apprendre sur un sujet précis, toute la collection des bouquins pour les nuls, et elle est exceptionnelle. C'est super pédagogique, c'est vachement bien écrit, ça tient totalement sa promesse, en fait.
Ouais.
Voilà, mais bon, c'est à toi.
Oui, pardon, j'aimerais bien passer mon tour quand même, s'il te plaît. Moi, j'en ai un qui donne pas envie comme ça par le titre, mais on en parlait tout à l'heure, parce qu'il est biaisé par son titre, par sa traduction française, en fait. C'est « Comment se faire des amis ?» de Dale Carnegie, et c'est pas très vendeur, en réalité, le titre anglais dit « Comment gagner des amis ?» Et déjà, c'est assez différent. Je trouve que le titre est mauvais. Pour l'anecdote, je ne sais pas si ça va vous le vendre, c'est le livre qui a changé la vie de Laurent Ruquier.
D'accord.
Ok, vas-y, il va falloir développer quand même.
Par exemple, en fait, c'est un livre qui retrace un petit peu tout au cours de l'histoire comment les grands de ce monde ont réussi à créer des relations et comment ça les amener là où ils sont allés. Et en fait, il explique plein de stratégies, de méthodes à connaître, etc. pour simplement gagner des relations qui vont pouvoir vous servir, soit au plan personnel, soit au plan professionnel. Et vraiment, moi, ça a changé totalement mon rapport avec les autres. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, qui est paru il y a des années et des années et des années, et qui, je pense, est une des bibles aussi à lire. Tu l'as pas lu, toi, Manuel ?
Non.
C'est ce livre qui dit de répondre au SMS 48 heures après ?
Alors non, c'est pas celui-ci. Ça, c'est un autre que j'ai lu bien plus tard, qui s'appelle comme ça, je fais une autre go qui s'appelle Make Time et qui explique pourquoi vous éloignez de votre smartphone. Donc je vous le recommande aussi.
Mais il l'a pris vachement au pied de la lettre.
Ah, un peu trop. Hein.
Oui, c'est celui-là.
Il n'a pas fait de groupe. Ah ben. Manuel.
J'en ai plein d'autres. En fait, c'est compliqué. Hein. Alors, il y a un autre bouquin que j'adore qui s'appelle Radical Candor, qui est sur comment vous le vendre ? C'est comment diriger ou leader un groupe sans perdre son humanité. C'est pas parce que tu vas diriger un truc ou diriger un sujet ou diriger un groupe de personnes que tu dois devenir un gros con. Et c'est assez fascinant de cette ambivalence qu'il faut garder entre ton empathie, ton humanité et en même temps le fait que t'es quand même là pour obtenir un objectif leader un groupe à un endroit en fait. Et ce bouquin est assez fascinant. Je peux en caser deux là comme ça.
Allez, vas-y.
Alors,
allez.
Juste en dessous, Manuel, j'en vois un qui m'intéresse.
Ah.
Le calendrier de Clara Morgan. Celui-là, tu l'as.
Non, ça c'est pas dans ma liste à moi. Ça. pas vraiment. Non. Après, j'en ai un en français, tiens. Comment sommes-nous devenus si cons de Alain Bentolila.
Ouais,
c'est ça.
Alain Bentolila.
Voilà. Et ça j'ai adoré ce bouquin. Tu l'as lu toi aussi, Léo?
Alors oui, je l'ai lu, je l'ai adoré. C'est pas une première lecture. Il est assez complexe à lire. Dans son vocabulaire, c'est pas le plus simple. Ouais, c'est vraiment pas le plus simple. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée pour une première lecture. En revanche, il est passionnant à lire.
Voilà, bon, moi j'ai adoré ce bouquin. Mais il y en a. Ah oui, il y en a un autre que j'adore qui est un chouchou. Sincèrement, je peux le lire plusieurs fois.
C'est génial parce qu'on voit quand même rarement Manuel vraiment passionné, tu vois, avec les yeux d'enfant. Et là, c'est fou, c'est génial quoi.
Ah, je l'adore ce livre. Ça s'appelle Trust Me, I'm Lying.
Ouais, tu m'en as parlé tellement.
Et j'adore ce livre. C'est les confessions d'un mec qui vient de l'industrie des médias, qui a vraiment travaillé pour fabriquer de l'audience, etc. etc. Et donc, il explique son rapport à la vérité, ou aux vérités au pluriel, qui sont toutes relatives. Et ce bouquin est absolument extraordinaire. Alors là, toute affaire cessante, vous arrêtez tout, vous allez lire ce livre et vous allez être transporté dans un univers qui n'est pas du tout le vôtre, avec un rapport à la vérité qui n'est pas du tout celui qu'on entend dans la vie quotidienne, et vous allez remettre en cause votre rapport à la vérité et au fait d'influencer des situations comme vous le souhaitez.
C'est intéressant ça. Moi, puisqu'on peut dépasser apparemment, bah, j'en ai un dernier qui s'appelle Disruption de Stéphane Mallard, qui parle d'intelligence artificielle, qui parle de fin du salariat, de plein de choses comme ça, de disruption de manière générale. Et en gros, bah, il vous explique ce qui pourrait se passer les 50 prochaines années et c'est incroyable.
La disruption étant un mot inventé par un publicitaire français qui s'appelle Jean-Marie Dru, qui est le patron de TBWA et c'est lui qui a inventé le concept. Enfin, c'est lui et ses équipes, j'imagine, qui ont inventé le concept de disruption.
Et il en parle, justement.
Et il en parle dans différents bouquins, sachant que TB a une petite entité qui s'appelle Piat-D, qui est une filiale de TBWA, en fait, qui était l'agence de publicité de Apple.
C'est fou. Parce qu'au fur et à mesure, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont corrélées et que certains acteurs se sont...
Et la pub 1984,
évidemment,
mythique, et fait par Piat-D,
filiale
de TBWA. Et voilà. Et Jean-Marie Dru, voilà, Cocorico, un Français, qui a inventé une notion qui est très, très largement utilisée en communication, en marketing aujourd'hui.
Qui est aussi abstraite qu'utilisée, finalement.
Écoutez, moi, j'en ai un dernier. C'est L'Art de la Victoire, de Phil Knight.
Ouais.
L'histoire de Nike, c'est quand même fou. Tu vois un petit bonhomme qui a 17-18 ans, qui commence à vendre des paires de chaussures dans l'Oregon, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, dans l'Oregon, et qui fait des allers-retours à Portland, voilà, et qui fait des allers-retours sans les compter avec l'argent de son père pour aller voir des gens qui font plus de chaussures à l'autre bout du monde pour essayer de les vendre, etc., parce que c'est des super chaussures de course, etc. Et qui, au fur et à mesure, donne ce qu'aujourd'hui, on porte pratiquement tous ou qu'on a tous dans notre placard. Quoi.
Mais
c'est incroyable.
Après avoir lu quelque chose comme ça, comment tu veux ne pas tout casser ? Mettez-vous à lire. Ça va changer votre vie.
Bah, en tout cas, quand tu lis ça, tu te dis « Ah putain de merde, c'est possible en fait. »
Ouais.
Il faut beaucoup de patience, beaucoup de travail.
Bien sûr.
mais c'est possible. C'est un mec qui juste a fait chier son père pour essayer de gratter 100 dollars de tous les côtés pour essayer d'acheter des paires de pompes, quoi. C'est incroyable. Et puis après, bon, l'histoire au fur et à mesure avec évidemment... Ah putain, j'ai sur le bout de la langue. Quel con, le basketteur.
Michael Jordan.
Voilà, merci.
Quand même, merde.
Ah non, mais je sais pas pourquoi. Je pense à Tony Parker. Ça voulait pas sortir le Michael Jordan, qui est quand même différent de Tony Parker, même si on apprécie beaucoup Tony Parker.
Non, mais on respecte Tony Parker, mais enfin, c'est pas pareil.
Les gars, merci infiniment d'avoir partagé ce moment.
Si, j'en cale un dernier.
Non, allez, bon. Vas-y.
Allez, merci à tous. Si, on se retrouve la semaine prochaine sur Take Out.
Non, Manuel, vas-y.
Génial. Ça s'appelle Que voit-on quand on lit, justement.
Ah.
Que voit-on quand on lit? Lisez ce bouquin, il va vous retourner la tête. Et il parle du rapport à la lecture, justement. Donc,
c'est intéressant ça.
Voilà.
Bon, on va finir là-dessus alors. Merci les gars, c'était top.
Merci.
Merci, la bise.
À très vite.
Ciao, ciao.
Ciao tout le monde.
Pas nos gènes, non pas ce qu'on te laisse voir, mais tout ce qu'on te cache quand ça nous gêne, auquel on pense toute la noche, jambes allongées devant nos chaînes. Cette impression de perdre son temps, s'étouffer dans cette vie toute faite, se sentant faible en sachant que la vie est une fête où personne danse. Ma deuxième mère m'a dit, c'est pas pour leur argent que les meilleurs prient. Je pleure celui qui meurt jeune, mais encore plus celui qui meurt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.